Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 71e épisode, épisode numéro 70. Nous sommes toujours le 20 mai 2022 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol. Bonjour Clément, qui es-tu, que fais-tu dans la vie ?
Salut Julien. Alors moi je suis le Chief Revenue Officer de chez Clever Cloud, donc je m'occupe à la fois du marketing et des ventes et je fais en sorte que ces deux canaux se parlent bien et trouvent bien leur boulot.
Merci beaucoup. Nous sommes également en présence de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui es-tu ?
Bonjour, je suis développeur chez Clever Cloud, du coup. Je m'occupe du FAS, DLB et potentiellement de l'offre cube qui arrivera sous peu, un jour peut-être.
Est-ce qu'on pourrait l'appeler Lego, l'offre cube ?
Ça serait tellement bien. Moi j'avais Cube avec un C. Moi j'avais Cube avec un C.
J'avoue.
Ça aurait été pas mal aussi pour Clever Cube.
Ou K-E-W-B-E, bref. On va libérer Alexandre. Ah, enfin, nous avons l'honneur de recevoir Alexandre Gourdel. Bonjour Alexandre, Julien. Qui es-tu, que fais-tu dans la vie ?
Alors, je m'appelle Alexandre Gourdel, je fais de l'architecture software et de la gestion de projets IT en indépendant. Et je participe à la conception d'un nouveau type de transport en commun à la demande et autonome pour une boîte qui s'appelle iFleet, basée à Aix-en-Provence. Et moi-même, je vis à Nîmes, dans le sud de la France.
Et merci beaucoup, bienvenue merci de nous rejoindre sur ce deuxième épisode. Donc si vous voulez écouter plus d'infos sur ce que fait Alexandre au quotidien et ce que fait sa boîte, vous pourrez écouter l'épisode numéro 69, 70e épisode. Attaquons directement sur nos liens de société avec un lien que Clément a proposé. Apple en Europe est obligé de... Enfin, serait peut-être obligé de faire ce qu'a dû faire Microsoft il y a 10 ans, c'est ça ?
Absolument, ça va être un petit peu différent là ce coup-ci, parce qu'on parle de l'univers un peu plus mobile. Vous n'êtes pas sans savoir que le système d'exploitation d'Apple, qui s'appelle iOS, n'a qu'un seul navigateur, pour être plus précis, un seul moteur de rendu, qui est en fait WebKit, et que Apple défend chèrement sur cette plateforme, de façon à ne pas avoir de concurrence. Ça fait quelques années que ça dure, et ça pose certains problèmes, notamment le fait que si tu veux faire en fait une application web, bah, t'es limité à l'implémentation des API qui sont dans WebKit. Et du coup, tu peux pas faire spécifiquement des applications plutôt orientées Chrome ou Firefox si ces moteurs de rendu, eux, sont plus avancés dans l'intégration des API. Donc, en fait, c'est un truc qui commence à arriver, c'est que on a l'impression que le Digital Market Act qui est en cours de fabrication en Europe et qui serait appliqué à partir de 2024, il se pourrait qu'une nouvelle version de ce texte puisse obliger Apple à ouvrir la concurrence à plusieurs de moteurs de rendu sur iOS, donc sur les iPhones, mais aussi surtout sur les iPads, et ça pourrait faire changer un petit peu la donne, c'est-à-dire que ça va remettre un petit peu de concurrence entre la fameuse guerre entre applications natives et applications web, dans la mesure où, voilà, quoi. Et ça pose plein de questions que je trouve super passionnantes, notamment sur l'univers de WebKit qui va devoir accélérer un petit peu son développement si ça passe, parce qu'ils ont quand même un petit peu de retard sur l'implémentation des API, on en parle souvent dans ce podcast. D'ailleurs, je vous renvoie aux épisodes où Uber est là, parce que c'est une marotte assez récurrente. En tout cas, je trouvais ça marrant de voir que l'Europe pouvait faire bouger ça sur la partie mobile, et ça vaut le coup de lire l'article, parce qu'il est super intéressant sur toutes les implications que ça peut avoir pour Apple, à la fois sur l'évolution de WebKit, mais aussi sur la gestion de la concurrence et le futur des applications mobiles, puisque le marché est obligé de faire des applications mobiles natives pour avoir toute une gamme d'API hyper intégrée et absolument parfaite au niveau du téléphone, comparé à du WebKit qui, lui, est quand même beaucoup plus restrictif en termes de fonctionnalité. Donc voilà, j'avais envie de partager ça, parce que je trouvais ça plutôt intéressant.
Mais du coup, si on peut avoir d'autres types de navigateurs, est-ce que Apple va continuer de bloquer le porno sur ses iPhones ? Ce qui me permet de faire une transition. Attendez, elle était technique celle-là.
Ouais, très bien, un peu cherché.
Ce qui me permet de faire une transition toute trouvée vers la dernière décision de la Cour d'appel en France qui confirme le rejet. Qui confirme le rejet, parce que ça a déjà été fait, d'une demande de blocage des sites porno par les fournisseurs d'accès. Tu veux nous en parler un peu, Alexandre ?
Tout à fait. En fait, c'est deux associations, donc e-Enfance et La Voix de l'Enfant, qui avaient qui avait fait la demande de, qui était allé au tribunal pour faire la demande que les FAI bloquent 9 sites pornographiques, donc les 9 sites les plus connus. Hein. Moi, je les connais pas personnellement. Et en fait, le premier, donc le tribunal d'instance les avait rejeté tout simplement pour une. En fait, c'est quelque chose d'assez technique, c'est de dire que avant de faire un recours auprès des FAI, eh ben, il faut d'abord faire un recours auprès des éditeurs du contenu, et ensuite faire un recours auprès des hébergeurs, et après vient après le FAI. Bon, ben, ils l'ont pas fait, donc leur demande est déboutée. Et le donc ils ont fait appel de cette décision, et là la cour d'appel de Paris a dit ben non, désolé, on confirme le premier jugement. Il y a un principe de subsidiarité de la responsabilité, donc c'est d'abord les éditeurs, puis après après l'hébergeur et ensuite les fournisseurs. Donc c'est pas on n'est pas sur une victoire du principe moral de laisser le porno ou plutôt de l'impossibilité technologique d'empêcher les enfants d'accéder au porno. On est plus sur quelque chose de technico-légal, en fait, un rejet technico-légal. Enfin, voilà, revenez avec votre plainte contre les éditeurs.
C'est ça, c'est-à-dire que depuis octobre, ils sont censés avoir au moins tenté d'agir contre les sites en allant contacter justement les éditeurs, les hébergeurs, etc. Et en fait, ça fait deux fois qu'on leur dit, mais le tribunal peut rien faire.
Oui, voilà.
Et ils reviennent encore et le tribunal leur refait, bah, on peut rien faire en fait. Légalement, tant que vous avez pas tenté. Bah, donc en fait, maintenant, il y a donc une jurisprudence, que ce soit pour le porno ou pour autre chose d'ailleurs, hein, pour différents contenus. Si on n'a pas montré qu'on a tout tenté auprès des hébergeurs, éditeurs, etc., ou auteurs de contenu, en termes de légal, nous, on a régulièrement des gens qui nous disent, attention, vous hébergez soit du phishing Netflix, c'est le truc à la mode, les fausses pages de connexion Netflix, on en a deux fois par semaine, des trucs comme ça. Où,
si ce n'est pas deux fois gens... par jour, même.
Ouais, ça dépend, il y a des moments où il y en a plus, ouais. Où des gens tentent de faire ce truc-là. Une période, c'était la Poste Suisse en termes de phishing. Enfin, donc voilà. Donc tant que et on reçoit les trucs et nous, quand on voit ça immédiatement, on coupe les applications. Donc en l'occurrence, on est l'hébergeur, on reçoit une notification relativement légale d'une entreprise qui nous dit attention, vous hébergez du contenu illégal et on agit dessus. Et potentiellement, si on n'agit pas, là, ils ont une preuve. Ils peuvent aller voir la justice pour dire attention, il y a Clever Cloud qui continue d'héberger des choses dangereuses, illégales, etc., alors qu'on les a prévenus. Donc effectivement, apparemment, les associations n'ont pas fait cette démarche-là. Et en tout cas, sont incapables de montrer qu'ils ont fait cette démarche-là et qu'elle n'a servi à rien.
Ce qui est assez facile, puisque montrer, c'est envoyer des mails. Donc en fait, ils n'ont rien fait.
C'est ça, enfin des mails, ou plutôt en général des
recommandés.
Des recommandés, mais voilà, on a un peu on a un peu l'idée, quoi. Mais alors, est-ce que je la tente avec un triple salto arrière. En parlant de ne pas bloquer le porno, parlons de la productivité. Oh, des gens qui travaillent de chez eux. Donc, c'est une étude, je peux en parler. Attendez, excusez-moi, il y a un petit moment technique où il faut que je note le timecode de quand on a commencé le sujet. Voilà, donc il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, il faut que je retrouve l'onglet, qui dit que d'après cette étude-là, le télétravail n'impacte pas négativement la productivité alors, des gens ou la productivité des entreprises.
C'est plutôt les gens, en fait, dans l'étude.
Ouais, c'est un article du 7 mai sur interestingengineering.com où globalement, il y a des chercheurs, visiblement, de Texas A&M University School of Public Health qui a fait une étude sur les gens qui sont retrouvés plus ou moins forcés de bosser chez eux suite à l'ouragan Harvey. Et donc, ils sont passés sur du remote, alors potentiellement du meilleur remote que ce qu'on a pu vivre pendant le Covid. Hein, parce que pour rappel, Être enfermé chez soi avec potentiellement ses enfants et dans un cadre ultra stressant, ce n'est pas du télétravail. Enfin, ce n'est pas ce que devrait être du télétravail dans le cadre du télétravail. Et donc, voilà, ils ont interrogé étudié un certain nombre d'employés d'une ou plusieurs entreprises sur quelles étaient leurs habitudes de vie, comment ils sont organisés leur journée. Et alors, l'article ne dit pas exactement comment ils ont mesuré la productivité des gens, mais globalement, ils n'ont pas trouvé de baisse de la productivité des gens par rapport à ce qu'ils pouvaient faire en venant au bureau. Et ensuite, il y a deux, trois informations un peu marrantes du genre les employés ou les gens qui ont fait les pauses qui étaient recommandées par, par les chercheurs ou par leur entreprise, donc pendant la journée, donc des pauses où tu vas faire autre chose que de travailler, ont montré une meilleure productivité globalement sur leur travail. Donc,
pensez à faire des pauses.
C'est important.
Faites donc des pauses ASMR.
D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on ferait pas une pause nous-mêmes?
On vient de la faire, la pause. Je sais pas si vous voulez réagir un peu là-dessus.
Si, en parlant des pauses et de ces parties-là. Après, je sais pas quand vous vous arrangez, mais je sais que généralement, j'ai un thé ou de l'eau avec moi. Et mon thé, il doit faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Et toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, dès que la tasse est finie, du coup, j'en reprends un. Du coup, globalement, je fais des pauses toutes les demi-heures, trois quarts d'heure. Et dans ce genre de choses, ça peut être un truc intéressant parce qu'en fait, ça oblige à se lever. Et même si c'est quelques minutes, parce qu'en fait, bon, le bureau à la cuisine n'est pas forcément loin, mais ça permet justement d'éviter de rester statique, en fait. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant.
Et dans le genre,
je vous recommande d'ailleurs de se lever.
Dans le genre, notre CTO, Steven Leroux, a décidé qu'il ferait pas, qu'il en avait marre de faire des visios assis devant son PC. Donc régulièrement, quand il a besoin de prendre l'air, il embarque son téléphone avec Zoom dessus, il le pose sur son vélo et puis il fait le call en se faisant un petit tour dans la campagne autour de chez lui.
C'est vrai, il est un expert là-dedans.
Ou en gyro-roue maintenant parce qu'il faut qu'il s'entraîne à utiliser sa gyro-roue.
Ah, mais au niveau de l'équilibre avec le téléphone, c'est chaud quand même.
Ouais. Ah oui, mais il met pas le téléphone en main, il le garde que dans la poche. C'est bien tenté, mais non.
Sur le vélo, il l'accroche sur le guidon.
Ouais.
Sur le guidon. Donc comme ça, tu peux toujours voir avec le ciel qui défile derrière lui. En vrai, c'est sympa. Toi, tu fais du télétravail, Alexandre ?
Je fais pratiquement que ça, puisque comme je suis indépendant et que je vis loin de la plupart de mes clients, je fais quasiment que ça. Par contre, oui, j'ai la bougeotte. Et si je réfléchis, il faut que je marche. Si j'ai un appel, il faut que je marche. Là, je suis en train de battre des records où je reste assis parce qu'on enregistre. Mais normalement, il faudrait que je me lève toutes les 10 minutes pour marcher. Mais ouais, effectivement, c'est pas mal de changer de position régulièrement. J'ai investi dans un fauteuil il n'y a pas très longtemps. Un vrai fauteuil, en fait, pour améliorer la posture.
Mais ça change. Moi, je plus sois le fauteuil. Achetez un vrai fauteuil si vous voulez vous mettre au télétravail ou faites-vous fournir. Parce que moi, je ne l'ai pas pris pendant le confinement. J'ai pris un Ikea plutôt haut de gamme, ça n'a pas suffi. Je me suis défoncé le dos. Donc, faites vraiment un effort là-dessus ou sinon, faites des pauses très, très souvent.
Ça change ta journée. Ça change ta journée d'avoir un vrai fauteuil de travail. C'est pas une chaise c'est pas une chaise en bois pour manger. Un fauteuil design de salon. C'est vraiment
une bonne chaise de travail.
Et vous pouvez demander à votre entreprise de vous payer votre fauteuil parce que ça fait partie de votre matériel. Du matériel qui sont censés vous fournir. Et c'est un investissement, parce que ça peut vite monter à 1000 balles un bon fauteuil, voire plus. Et c'est un investissement, mais ça vaut quand même le coup, parce que la santé, en général, on le paye beaucoup plus cher quelques années plus
tard. Demandez à la médecine du travail, d'ailleurs. Vous verrez leur réponse là-dessus.
Et allez les tester. Si on peut pas se faire passer un message, allez vraiment les tester suivant ce que vous aimez, et vous partirez peut-être pas forcément avec le plus cher. Parce que c'est des choix après de confort, mais allez dans une boutique, les tester, il y a des professionnels du fauteuil qui vous aideront.
Oui, il y en a qui aiment avoir des accoudoirs, il y en a qui n'aiment pas avoir des accoudoirs. Donc, allez, ouais, effectivement, c'est un bon conseil.
Encore et, un avis sachant, sur, que général, ouais. Sachant qu'en général, les entreprises ont déjà une politique d'enveloppe justement pour aider à s'équiper. Donc n'hésitez vraiment pas. C'était le petit message santé oui. publique.
Pour celles qui acceptent le télétravail, pour celles qui n'acceptent pas le télétravail, prenez l'article qu'on vient de vous donner et puis...
n'hésitez pas à le lancer.
C'est ça.
Et allez, vous pouvez même l'imprimer sur un petit papier, un peu en papier.
Et c'est là que vous devez rappeler que Clever Cloud accepte le télétravail.
Absolument.
Oui, on est même remote first, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas embaucher des gens autour de chez nous, parce que potentiellement il y avait des gens plus intéressants plus loin.
Et Nantes.
Ouais. En plus, ouais. Donc,
mais ce qui crée un vrai réseau sur la France.
C'est ça. Nous, on essaie quand même de se dire que on part du principe que le bureau, ça doit être un outil qui est offert aux employés pour être potentiellement plus productif ou pour avoir un autre type de productivité. Mais que si les gens se sentent forcés de venir au bureau et que du coup ils sont moins à l'aise et potentiellement ils vont partir. Enfin, on aura plus de churn d'employés. De turnover, de trucs comme ça, et potentiellement des gens moins efficaces, moins heureux, bah, c'est dommage quoi. Donc on essaie d'avoir un bureau qui est accueillant. Parfois il y a des gens, ils viennent une fois, un jour toutes les deux semaines au bureau, ou deux jours à un moment, et sur ce un ou deux jours, ils ne touchent pas à leur PC de la journée. Parce oui. qu'en fait, quand oui, tu es au bureau, tu en profites pour écrire des trucs sur un tableau, pour discuter avec les gens, faire naître potentiellement des idées de projet ou des idées de...
Mais c'est les points synchro, des justement, idées de voix, des points synchro, des autour d'un café. Mais toutes les discussions qui sont un peu informelles, genre on arrive et un besoin d'architecture ou autre, bah, c'est justement l'occasion en fait, quand tu es en train de travailler et que tu viens au bureau, c'est juste pour discuter avec les gens. Et moi, je vois vraiment comme ça avant, j'étais tout le temps au bureau, et maintenant quand je sais que j'y vais, j'essaie de privilégier le fait de discuter avec les collègues en fait. Et ça permet aussi de débloquer les situations souvent.
Ça aide à la communication. Et cela dit, on sait quand même depuis le Covid, on s'est créé un Discord juste à nous pour pouvoir. Enfin, il y a des gens parfois qui bossent avec juste leur caméra, le micro et qui discutent. Et ils sont 5 à bosser côte à côte entre guillemets. Sur Discord, chacun sur son sujet, et puis comme ça ils papotent au passage ou ils se posent des questions sur ah j'arrive pas à faire ça, est-ce que quelqu'un l'a fait, et ça aide aussi à le faire. Alors c'est pas toujours aussi agréable que de le faire dans un vrai bureau, mais voilà. Et puis pareil, on considère aussi que si à un moment quelqu'un qui habite je sais pas à Lyon a besoin d'aller bosser sur un sujet avec quelqu'un qui habite à Brest, et ben on va lui payer le billet de train ou le billet d'avion pour à l'un ou à l'autre, hein, pour qu'ils puissent se retrouver physiquement, parce que parfois c'est plus simple de faire 3 jours ensemble, de bosser sur un sujet pour de vrai côte à côte et d'en parler pendant qu'on mange ensemble, ce genre de choses. Donc on est vraiment dans cette idée de bah, si vous avez besoin de vous rencontrer, Clever Cloud va vous payer le billet et ça doit pas vous empêcher de. La distance doit pas vous empêcher de vous rencontrer, de travailler quoi, ensemble.
On formait tous ensemble un grand réseau.
Exactement. D'informations. Mais justement, parlons de réseau de désinformation. C'est donc une enquête, on peut appeler ça une enquête, qui a donné suite à. Enfin, qui a permis de faire un thread Twitter et un livre. Donc, la personne fait son thread et a sorti un livre, donc globalement il en profite pour faire la pub de son livre qui s'appelle Les Dissidents. Donc la personne s'appelle Anthony Massui, qui est allé chercher qui est l'homme derrière le plus gros réseau de désinformation en France. Quelqu'un qui a 1 million de followers. Et donc la personne est allée chercher des informations sur qui propage toutes ces informations sur le chemtrail, sur les. Donc les chemtrails, c'est l'idée que les avions, en fait, les fumées derrière les avions ne sont pas des gouttelettes d'eau mélangées à du kérosène cramé, mais des produits chimiques qu'on met pour pouvoir contrôler la population. Je vous le fais vite fait.
Contrôler le climat,
c'est ça, oui. Mais je crois qu'à un moment il parlait de balancer des trucs pour pouvoir endormir les gens aussi. Enfin, bref, il y a un petit peu de tout. Voilà, les trucs de nouvel ordre mondial, bref, les antivax, des trucs. Bref. Un petit peu tout ça, des gens qui mélangent vraiment les réseaux complotistes, conspirationnistes, etc. Et donc la personne est allée un peu regarder quelles sont les pages qui a réussi à trouver la personne derrière. Je vous laisserai lire pour avoir le nom, comme ça je vous tease un petit peu. Donc voilà, il a trouvé des trucs assez marrants. Par exemple, la personne en question a essayé de racheter le compte Twitter InfoSex et s'est fait arnaquer dans l'affaire. voilà, et sinon, il y a la fameuse... la personne a fait un certain nombre de stratégies où parfois il rachète des pages qui n'étaient pas forcément des pages complotistes, etc. Et il y a un grand truc qui se fait quand... Parfois, alors que ce soit par des gens complotistes, par du rachat ou juste par des gens qui ont monté un complot autour de ça, justement. Une stratégie qui consiste à faire une page qui parle d'un certain sujet, mais qui n'est pas forcément un sujet de complot, de vaccination, de je ne sais quoi, mais juste un sujet où tu vas avoir des milliers d'abonnés sur ce sujet-là. Et ensuite... Eh bien, tu renommes la page, tu renommes le l'ID, etc. Et ça fait que tu te retrouves à avoir des milliers d'abonnés sur un truc qui va s'appeler Libre Info, Ouvre ton esprit, ce genre de choses. Et là, par exemple, il donne un exemple d'une page Facebook qui s'appelait Les Vegan Extrémistes. Donc voilà, potentiellement un truc que je ne connais pas ce truc. Et ça a été renommé en Les Citoyens. Et en fait, une fois que tu as capté plein de gens, parfois ça peut arriver sur. Tu te retrouves sur Facebook, tu vois des informations et tu te dis, mais pourquoi je suis cette page qui raconte n'importe quoi? Et en fait, c'est des gens qui ont potentiellement racheté une page que tu suivais parce que tu étais intéressé par le sujet, par exemple du véganisme, admettons. Et que tu te retrouves à te retrouver sur une page qui commence à taper sur les étrangers, par exemple. Et qui en plus a changé de nom et tu comprends pas pourquoi tu suis cette page. En fait, c'est juste que c'était une autre page que tu suivais et qui a changé de nom. Donc ça fait quelques années que ça a été dénoncé, ce genre de pratique. Et je me demande si Facebook avait pas un peu bloqué ce genre de truc à une époque suite à des plaintes.
Mais il me semblait que tu pouvais pas renommer une page, mais peut-être je me trompe.
Bah si, justement tu peux, il y a des gens qui profitent de ce genre de choses, mais peut-être que tu ne peux plus le faire à cause d'un certain nombre de choses. Et donc voilà, c'est assez marrant, assez sympa à lire, ça donne envie d'acheter le bouquin. Et voilà, il raconte que la personne met en place des opérations de collage dans la rue, ce genre de choses, et il faut que j'aille ouvrir à la porte parce que ça sonne. je vous laisse donner votre avis sur ce sujet.
C'est le dérivé d'une stratégie qui existe déjà dans le référencement naturel, par exemple, où tu vas racheter un... on va dire que tu as un site où tu propages tes idées, mais le site ne fait pas beaucoup de vues et lui-même est bien référencé, du coup. Et tu vas racheter des sites plus importants, mais des sites anodins, genre les Pokémon ou les machins comme ça. Ouais. Et une fois que tu l'as, tu vas lui foutre des backlinks vers ton site à toi. Ça va faire augmenter sa popularité d'un point de vue des robots. Et voilà, et d'un coup, ton site devient une référence internationale sur un sujet comme les vaccins ou les OGM, alors que tu racontes pipe tout ça parce que tu as acheté des sites internet qui avaient un certain trafic et que tu les as redirigés vers le tien.
Ouais, t'as fait monter la sauce artificiellement, quoi.
C'est ça.
Sachant que moi, je vois plus le... Quand tu rachètes une page comme ça de compte Facebook, j'ai plus l'impression que tu rachètes une audience derrière qui, potentiellement, de base, en fonction de la page que tu veux racheter, est celle que tu souhaites cibler. Ou qui a forcément quelques traits... qui a des traits assez affiliés, et du coup, en fait, tu vas gagner une communauté encore plus large, du coup, en faisant ça. Après, forcément, tu auras des personnes qui se recoupent, parce que, forcément, les pages, les sujets à thématiques assez communes, on est personnes, on est même fans, entre guillemets, mais ça permet, justement, je vois, de mon point de vue, faire grossir une communauté, en fait, et de s'étendre, après, ce que tu disais, hein, en mettant des liens et autres sur des trucs un peu bidons, quoi. Aussi. Potentiellement.
Aussi. Et c'est bien orchestré tout ça.
Exactement, et de dire que c'est bien orchestré et même que Nvidia arrive à le faire dans OpenShift, on n'est pas si loin, qui est l'article qui suit. Et c'est vraiment pas facile, et merci d'avoir mis ce petit mot. le prochain l'article qui suit, en fait, c'est dans la... Pour ceux qui connaissent un peu l'univers Kubernetes, et notamment Red Hat, Mais là, tu as en fait fourni une distribution qui s'appelle OpenShift de Kubernetes, donc avec un petit catalogue, une UI un peu dédiée, et notamment un écosystème qui tourne autour de l'opérateur Hub leur marketplace. Et en fait, il se trouve que dans la dernière version, dans la nouvelle version qu'ils vont pousser d'OpenShift, qui est la version 4.10, ils ont mis en développeur preview. J'aime bien cette version-là parce que du coup, tu sens que c'est pas tout à fait sec, mais ça arrive. Ils ont mis en fait à disposition une intégration DPU. Alors DPU, c'est des Data Process Units. C'est un petit peu, vous pouvez voir ça comme des cartes graphiques sous stéroïdes. Et notamment, c'est depuis le rachat de Mellanox par Nvidia, en fait, Nvidia s'est mis à créer justement ce type de carte qui a pour but d'être une carte graphique mais dédiée plus à des usages style réseau ou stockage, et avec des puces notamment, moi je connais plus celle pour le réseau qui est la BlueFeed, et qui a pour but justement de fournir des puces pour tout ce qui est chiffrement, déchiffrement, et notamment du TLS dont on parlait dans l'épisode précédent, et pour faire du cookie assist, en fait, globalement, vous recevez une requête HTTPS, vous avez, au lieu d'essayer de la déchiffrer au niveau du CPU, ce qui est extrêmement coûteux en termes de calcul, vous la donnez à la puce, en fait, avec l'API qui est fournie au niveau du kernel module, dont on parlait.
En lui passant la clé privée au passage.
Exactement. Tout ce qu'il faut faire, du coup. Et du coup, on lui passe ça, le process nous le déchiffre, la requête, et nous renvoie le résultat, et en fait il le fait mais infiniment plus rapidement que ce que peut faire un CPU, et ça lui coûte beaucoup moins cher en temps de calcul. Et du coup, en fait, c'est ce type de carte là que OpenShift est en train de mettre à disposition dans leur offre, et du coup je trouvais ça intéressant, moi, de le fournir, parce que c'est quelque chose à Clever qui nous intéresse au final, puisqu'on veut faire notre propre DC, donc on essaye toujours de faire de la veille techno sur l'infrastructure et le hardware. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Après, je ne sais pas si vous avez des avis, vous, de votre côté, Julien, Clément, Alexandre, sur le hardware en particulier. Est-ce que vous avez déjà testé des cartes un peu spécifiques ?
Non, justement, moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester ça. Et du coup, j'ai plutôt hâte de voir les résultats. Mais je sais qu'on a déjà commencé à recevoir ce genre de matos et qu'on va commencer des tests. Mais là-dessus, j'ai pas encore vu. Après, c'est rare hein, de tomber sur des gens qui font ce genre de tests. C'est quand même assez spécifique. Quand tu commences à toucher à du hardware, c'est que t'as des enjeux d'infra derrière qui sont pas déconnants.
C'est que t'as tapé une problématique qui peut être.
Et la question, c'est quand est-ce qu'on pourra avoir un. Comment ça s'appelle ? j'ai oublié le nom. Une network function. Non, c'est pas une function, c'est un.
C'est un truc qui
là non qui fait tourner du qui fait tourner sur des DPU chez Clever dans OpenShift.
Et bah ce sera qu'on aura une offre cube, on fera du pass-through à travers l'hyperviseur de l'AVM dans lequel on aura potentiellement un kubelet qui sera configuré. Alors ça va être peur.
Un avis, Alexandre?
Je passe.
Mais ils s'en foutent. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet ou...
Non, mais je pourrais dire que en vrai ça permet de fournir des use cases de justement de virtualisation assez intéressantes et distribuées. Pour ceux qui connaissent, il y a un projet qui s'appelle SRIOV qui permet de faire des cartes virtuelles là-dessus et de les distribuer à des VM. Et en parlant de distribuer, on va parler de Postgre distribué avec Cockroach. Et là, je suis assez fan de ma transition, même si, pour le coup, elle a un peu forcée.
Elle était bien. On valide.
Ouais, elle est bien.
Et du coup, c'est un autre lien. Là, plus sur les bases de données, qui est un lien de Pierre Zem, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont vu dans les précédents épisodes, qui en fait a pour but, qui est très simple, qui a pour but de venir réexpliquer comment on réécrit une base de données depuis zéro, enfin presque depuis zéro, parce que là ça prend l'exemple de CockroachDB, et notamment le contributeur qui explique ça explique aussi les principes de Cockroach, où il vient se dire que Cockroach, en fait, globalement, c'est un énorme wrapper, en faisant très en vulgarisant énormément, parce qu'il y a énormément de choses à savoir dans les systèmes distribués, et notamment les bases de données distribuées. Et en fait, ils expliquent que c'est globalement un gros wrapper sur trois librairies qui sont le Wire Protocol de PostgreSQL. Donc en gros, c'est la librairie qui permet de discuter avec un serveur PG, donc son protocole en lui-même, et potentiellement les requêtes SQL qui passent dans le tuyau et tout. La partie stockage de données, donc là potentiellement ça peut être du RocksDB ou autre, hein, c'est l'interface en fait. C'est comment vous allez stocker la donnée que vous avez envoyée à travers du Wire Protocol juste avant. Et puis bien sûr, vu que c'est une base de données distribuée, non distribuée, il faut se mettre d'accord avec les autres petits copains sur le réseau. Et pour ça, c'est la librairie Raft qui a été écrite par les personnes de TCD. Et du coup, en fait, dans cet article, il explique comment recréer sa base de données, alors version beaucoup plus soft, parce qu'en fait, il réimplémente justement SQLite. Enfin, avec ces trois lignes. Et de manière très légère, parce que SQLite, faut pas le croire, mais c'est quand même une base de données assez intéressante en soi, parce qu'elle a plein de problématiques, vu qu'elle se passe uniquement sur un seul fichier. Voilà. Et en fait, dans cet article, il explique justement toutes les problèmes auxquels ils ont été confrontés, et il essaye d'expliquer au travers de trois exemples de code et à la fin, une DB, parce qu'au final, c'est la finalité de l'article, on explique sa base de données, les problèmes qu'ils ont eus, et aujourd'hui, pourquoi CockroachDB, en fait, et pourquoi pas juste garder PostgreSQL, et voilà. Et je vous laisse aller le lire, parce que je pense que j'ai oublié quelques petits bouts dans cette histoire. Et même si y a une grosse vague pour le coup sur GitHub de personnes qui se mettent à réécrire leur base de données pour justement apprendre comment ça marche, sachant que si vous cherchez des noms un peu exotiques qui finissent par DB, vous pouvez en trouver un paquet assez hallucinant sur GitHub.
Et pour le coup, l'article est vraiment très bien décrit avec des exemples des exemples de code, de comment les choses sont implémentées, etc. Et c'est vraiment très très complet.
Exactement. N'hésitez pas à aller le voir. Et peut-être que vous pourrez écrire des bases de données financières avec. Et en parlant de ça, on va parler de facturation et de l'enfer de la facture.
Et effectivement, c'est sur le blog de Lago, globalement, qui est un système qui vous permet de gérer votre facturation, justement. Donc, il réimplémente potentiellement une API à la Stripe Billing ou à la Charge Billing. Enfin, apparemment, il se positionne comme la version open source de Stripe Billing ou de Charge Billing. Et donc, ils ont fait un long article, très très intéressant, j'ai trouvé, qui s'intitule Why Billing Systems Are a Nightmare for Engineers. Donc pourquoi les systèmes de facturation sont un cauchemar pour les ingénieurs. Et ben voilà, et donc c'est assez détaillé. Non mais globalement voilà, ça dit bah ok, ça prend un exemple. Alors c'est assez intéressant parce que ils sont allés interviewer des gens d'un certain nombre d'entreprises, notamment qui sont potentiellement leurs clients d'ailleurs. Ils interviewent des gens chez Conto, donc qui est une néobanque, une banque en ligne, voilà, nouvelle génération. Ils sont allés demander à Algolia, ils sont allés demander voilà, donc à différentes personnes. Ah, ça y est, on a la ASMR du verre d'eau. Ils sont allés demander voilà différentes entreprises, donc c'est assez intéressant parce que ils ont pas mal de cas d'usage et voilà ils sont là genre bon par exemple comment est-ce que tu gères le fait qu'il y ait des années bissextiles si tu payes des trucs à l'année ou au jour, combien de jours ou de mois de trial d'essai gratuit tu peux donner, est-ce que tu calcules des choses à la seconde, à l'heure, à la journée, ce genre de choses, comment tu fais ton prorata si tu fais payer les gens en milieu de mois pour quelque chose qui dure un mois, est-ce que tu fais payer genre tous les 15 du mois le produit pour le renouvellement automatique, ou est-ce que tu fais payer au début de mois, ce qui fait que quand les gens s'inscrivent, est-ce que tu leur fais payer les deux premières semaines, par exemple, ou les trois derniers jours du mois, et ensuite ils auront une facture le mois suivant. Donc ça pose beaucoup de questions, avec des trucs, par exemple, si on vend des plans, admettons qu'on ait un plan bronze et un plan argent et un plan or. Y a une anecdote derrière que je ne raconterai pas sur l'antenne, mais je vous la ferai hors antenne. Donc si vous nous écoutez, payez-moi une bière et je vous raconterai l'anecdote. Mais voilà, admettons qu'on soit sur le plan. admettons qu'on soit sur le plan bronze, par exemple, et que la personne veut augmenter d'un plan. Donc est-ce qu'on se dit que on lui fait payer juste le prorata de la différence entre le plan bronze et le plan or, par exemple? Sur jusqu'à la fin de la période, ou est-ce qu'elle paye tout, ou est-ce que la personne ne passera au nouveau plan que à la fin de la période et paiera à partir de ce moment-là, ou est-ce qu'on fait payer à la fin de la période le prorata en plus de la période suivante, et quand les gens veulent redescendre d'un plan, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue de, on dit bon bah ok, tu redescends d'un plan, mais du coup tu seras sur le nouveau plan, enfin le plan d'en dessous, que à la fin de la période et pour l'instant jusqu'à la fin du mois, c'est bon, et parce que si la personne a payé en avance sa période si la période de facturation c'est par rapport à ce qui va se passer, peut-être qu'il faut rembourser la personne si on lui coupe maintenant tous les avantages de son plan. Enfin, ça détaille plein d'usages, et notamment comment est-ce que tu fais si tu dois gérer de la consommation, du paiement à la consommation, mélangé à du paiement à l'inscription au mois ou à l'année, ce genre de choses. Et c'est effectivement l'enfer. Et pour avoir bossé pendant un ou deux ans là, sur même plusieurs itérations du système de Factu Clever, je trouvais ça très cool à lire parce que je me dis, en fait, je suis vraiment pas tout seul à avoir galéré. Et je ne sais pas si vous avez votre avis là-dessus.
Moi, je trouve l'article plutôt bien foutu, et encore, c'est qu'une partie de la glace immergée. Je ne sais plus comment c'est quoi l'expression, mais globalement, il y a tous les autres. Merci. Il y a tous les autres problèmes qui sont liés en fait à ton métier, qui sont pas exprimés là-dedans, parce que, par exemple, techniquement, on a des clients qui demandent à avoir des prix spécifiques sur des produits spécifiques. Donc, on fait des versions du catalogue spécifique à un client qui s'applique sous certaines et certaines conditions. Et en fait, il y a 6 points qui sont exprimés dans cet article. Le dernier, quand même, un gros point, c'est comment tu gères la taxe et la TVA. C'est vraiment chaud. Mais aussi, comment est-ce que tu gères tous les trucs qui sont spécifiques à ton métier. Et alors là, tu te retrouves bien seul sur ces problématiques-là. Et d'un autre côté, il y a des trucs sur lesquels, moi, j'ai pas encore de réponse au vent de Check Clever. C'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, du calcul de facturation sur... comment ça s'appelle là, le referral, qui est un truc qu'il faut mettre en place d'un point de vue à la fois marketing, mais qu'il faut ensuite modéliser sur la partie billing. C'est un enfer, ces trucs là c'est vraiment un enfer, parce que même si tu as quelque chose d'élégant et qui va dans tous les use cases, il est incroyablement complexe à mettre en œuvre. Par contre, si tu veux mettre en œuvre quelque chose de relativement simple d'un point de vue facturation, t'as un truc qui est pas exact, et du coup tu perds de l'argent ou au contraire t'en grattes un petit peu trop. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir cet article là mais faut garder en tête, il y a plein de sujets qui sont compliqués, qui sont pas exprimés.
Est-ce que j'ai une petite anecdote là-dessus, Julien, au passage, sur la factu à Clever?
Je pourrais en parler après, parce que je pense que Alexandre a envie de participer.
Ah non,
déjà à la
discussion, c'est juste, je pense qu'il met l'article, c'est vrai que c'est un bon article qu'il faut lire, parce qu'il met au propre, il est bien écrit, on va dire, sur une problématique que beaucoup peuvent tomber, et c'est vrai que si tu as déjà dû à gérer une problématique de tarification, à la fois techniquement et d'un point de vue business, tu vas te retrouver dans cet article. Évidemment, il pose des questions. En fait, il ne fait poser que des questions, il ne donne pas de réponses. Mmh. Et donc, j'encourage tous ceux qui pourraient être amenés à se les poser à venir le lire pour être sûr qu'il ne rate pas au moins une de ses questions principales, sachant que les réponses, de toute façon, c'est des réponses métiers, en fait. C'est pas des réponses techniques, c'est des réponses que vous devez... aller chercher avec votre CIO, avec votre CEO, avec votre CTO, avec votre département marketing si vous en avez un, etc. Parce qu'en fait, La gueule de la facture, ça joue aussi. Donc effectivement, la gueule sur la facture, ça, pardon, la gueule de la facture, ça joue sur le moral du client, enfin sur la perception qu'il a de vous aussi. Effectivement, si tu peux trouver un type de facturation assez simple à mettre en œuvre, et c'est très compliqué à comprendre côté client ou inversement. Donc c'est que des arbitrages. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise. Ça va être que des arbitrages à faire. Donc c'est un article à lire.
C'est un truc sur lequel tu as eu à bosser, toi, soit actuellement, soit dans le passé.
Alors c'est dans un passé, c'est que j'ai dû concevoir. Alors, j'ai fait la direction technique, l'architecture et la gestion de développement. C'était une plateforme d'automation de gestion de campagnes d'achat média, donc les campagnes publicitaires pour Google, Facebook, Google Ads, Facebook Ads, etc. Donc leurs API pour un réseau de conseillers immobiliers. Et en fait, on a eu cette question. Les questions, c'était comment on facture, qu'est-ce qu'on facture, puisque en fait, l'idée, c'est on fait de la gestion de budget. Publicitaire, donc le client va nous donner de l'argent qui ne rentre pas dans notre poche mais qui va partir pour de l'investissement publicitaire, et derrière nous on doit le biler, enfin on doit payer. Donc comment on le fait, exactement les mêmes types de questions, c'est est-ce que ça démarre au moment où l'utilisateur lance ses campagnes, est-ce qu'on facture plutôt un jour fixe tout le monde, les questions prorata, les questions de qu'est-ce qu'on affiche sur la facture, quel est notre business model aussi, tout simplement. Toutes les questions de comment on gère les process de raté, c'est à une facture qui n'est pas le passé, comment tu relances, est-ce que d'abord tu relances de manière automatique via Stripe, via ton partenaire de paiement, ensuite si ça ne marche pas, il faut relancer directement vis-à-vis du client, donc tu mets en place un process d'email qui se veut de plus en plus agressif sans jamais trop choquer. Ce que tu calcules aussi derrière, en fait, c'est la marge que tu prends, parce qu'en fait, si tu découvres que il suffit d'un client avec lequel tu n'arrives pas à avoir ton paiement, et tu te fais bouffer la marge de 1000 autres clients. Donc là, tu te poses des questions. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je trouve assez. Il m'a beaucoup fait sourire en me rappelant pas mal de souvenirs, en fait, cet article.
Nous, on a eu, tu demandais des anecdotes florentines, mais effectivement, on a eu ce genre de problème avec le client qui a décidé qu'il te payait 45 jours fin de mois, voire plus hein, parfois. Et que, alors, on le rappelle, nous, sur la facture, il y a écrit paiement comptant, donc ce n'est pas au client, normalement, de décider à quelle échéance il paye. Et ce qui fait que les clients, ils reçoivent des messages relativement sévère au bout d'un moment, parce que quand 45 jours fin de mois, t'as le temps et que tu as une facture mensuelle, tu as le temps de recevoir 2-3 factures parfois avant de commencer à payer la plus ancienne. Et donc les gens nous écrivaient en disant nous on paye 45 jours fin de mois et ça nous stresse de recevoir ce message. Et parce qu'effectivement, j'avais pas encore configuré quel type, la capacité de flaguer un client pour dire lui on lui envoie que des messages gentils parce qu'on sait qu'il va payer mais qu'il va payer avec du retard, ou alors lui on lui envoie pas de relance, enfin il y a toutes ces questions là et alors je pense que le conseil le plus la seule réponse entre guillemets qui est apportée dans cet article, c'est la facturation et la collection de l'argent, c'est un problème à temps plein et d'une équipe, c'est-à-dire qu'eux ils racontent que lui ou elle d'ailleurs je sais plus raconte que il a commencé tout seul dans son petit sur son petit projet en part-time en R&D dans son équipe, et il a fini 7 ans plus tard avec une équipe de 12 personnes qui faisaient ça à temps plein, quoi. Donc que ça soit générer les factures ou gérer le paiement, relancer, etc. Et c'est effectivement quelque chose de dur. Il y a toujours des edge cases où on va tomber sur le client qui a tel besoin, enfin. Nous, au début, on est aussi chez Claveur, on avait un mode de fonctionnement, et là, on a commencé à récupérer des clients de type la Maïf, quoi. Et la Maïf, ils ont leur propre process pour gérer les factures, pour les achats, etc. Donc, on est sur des gens qui vont vous envoyer un message en octobre pour nous dire « Ah, il faudrait nous faire la facture pour l'année prochaine pour qu'on puisse le mettre dans notre budget. » Enfin, donc voilà, il y a un certain nombre de problèmes, et donc il faut réussir à intégrer tous les edge cases de tous les clients potentiels dans quelque chose de cohérent, et c'est vraiment compliqué. Et même sur les factures, j'ai juste sur la présentation des factures, depuis la nouvelle billing API qui est sortie il y a un an et un mois, et deux mois bientôt, j'ai changé deux ou trois fois la façon de présenter les factures, et on s'était mis à trois, avec notamment Guillaume et Cédric, Guillaume Champeau, donc, qui s'occupe de la partie légale, etc., entre autres chez nous. Et on s'était mis à trois, juste pour voir comment est-ce qu'on présente les factures et qu'on présente le concept, parce que nous, on va te facturer ce que tu as consommé le mois sur la période qui vient de s'écouler, et on va t'ajuster une provision de crédit pour couvrir la période suivante. Des fois que les gens se barrent sans payer à la fin de la période suivante. Et ça, il faut réussir à l'expliquer, comment on calcule la nouvelle provision, etc. Et c'était un boulot monstrueux pour réussir à faire quelque chose. Voilà, et en vrai,
c'est un boulot de UX/UI là, pour le coup.
Ah ouais, mais ça fait partie du, ça fait partie du boulot. Et en vrai, on a eu des clients qui nous posaient des questions sur le support régulièrement, qui le jour où le nouveau format de facture est sorti, ça a répondu à leurs questions, quoi. Enfin, genre l'après-midi même, parfois, c'est ça chez Clever, on sort des features, on n'a même pas encore le temps de faire l'article qui dit qu'on a, enfin, de publier l'article, qu'on a déjà des gens qui ont vu la nouvelle feature et que ça répond à leurs problématiques qu'ils avaient et qui viennent nous voir en mode c'est génial. Et c'est assez impressionnant.
Et pour le coup, on a pas mal de remontées comme ça de nouvelles features qu'on sort et en fait, en interne, on a un Slack sur lequel on a un petit message, un petit thread thanks, et du coup, le support, des fois, vient déposer les petits messages des clients, en fait, qui sont hyper contents d'avoir telle ou telle feature, justement, qui, si ça résout leur problème.
Oui, parce que sur ce sujet, en général, la moindre erreur, c'est ton service client qui saute, hein, en termes de...
Ah oui, ça coûte cher en support en ce moment-là, ouais.
Ouais, c'est clair. Ça coûte cher en support.
Bon, tout à fait, ouais.
Moi, par exemple, je sais, alors comme je suis un peu le développeur du système de factu de chez Clever depuis 10 ans, et donc je suis en lien avec les gens qui vont aller récupérer l'argent, gérer tous les cas un peu bizarres où il y en a qu'on sait que parfois on leur fait juste une facture à la main tous les 6 mois parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, parce qu'ils ont des cas vraiment très précis, très bizarres. Je sais que nous, on génère donc toutes les factures en début de mois, donc ça s'étale sur une douzaine d'heures la génération des factures, entre le 1er et le 2 du mois. Et je sais que moi, entre le 1er et le 3 du mois, je ne fais que répondre aux questions techniques et parfois voir comment est-ce qu'on ajuste des factures de façon technique. Parce que bah, les gens qui gèrent la partie relation client sur les factures sont pas forcément des personnes très... qu'ont la connaissance technique. Donc je sais que moi, ces trois premiers jours de mois, du mois, c'est du support facturation, quoi.
C'est normal, c'est vraiment l'union. De toute façon, ce domaine, c'est vraiment l'union entre le métier et la technique pour être sûr que tout se passe bien.
Ouais. Et voilà, donc ouais, lisez cet article, il est en anglais et il fait des liens vers plein d'autres articles très très intéressants aussi. On vous en met un autre dans la description qui s'appelle « 5 things I learned while developing a billing system ». Qui a à peu près une année, qui a un an, et il y en avait un autre, je crois, il parlait, je sais plus si dans cet article-là où ils sont là. Déjà, le premier truc à savoir, c'est qu'une facture, tu ne peux pas l'annuler. Tu ne peux pas supprimer une facture. C'est une pièce comptable, et donc tu es obligé de générer une autre pièce comptable si tu veux annuler le montant que tu as facturé. Enfin bref, il y a plein de détails. C'est très drôle, en vrai. Et le moment où tu as les comptables qui t'appellent pour faire la déclaration TVA à l'export en Europe, c'est très très drôle aussi, la discussion. Voilà, je sais pas si.
Parce que généralement, tu découvres ça au moment où le comptable t'appelle.
C'est ça. Moi, j'ai découvert des trucs en mode ah, j'ai pas le droit de faire ça. Ou moi, on m'avait dit ah, tiens, les numéros de facture, ils fonctionnent comme ça. On avait interprété la loi comme ça. Et le comptable fait ah non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait l'interpréter, c'est comme ça. Et donc, il y a une année, on a renuméroté toutes les factures.
C'est vrai.
Et là, je vous raconte pas l'histoire des clients qui sont là. Oui, mais on n'arrive pas à retrouver notre ancienne. Enfin, on avait une facture à ce numéro-là. Donc, on avait quand même gardé une table de correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros. Mais voilà, quand le comptable se pointe en septembre, il te dit oui, toutes les factures depuis le 1er janvier, il faut les renuméroter. Tu fais ouh. Voilà, c'était très drôle.
Alors, je crois que c'est juste pour répondre à ton. Je crois que c'est la fondatrice de Lago qui fait l'article.
Ok.
Et apparemment, elle aurait travaillé chez Conto.
D'accord.
Ah, oui, si j'ai pas de bêtises, elle aurait été une des premières employées de Compto, en fait, je crois.
Oui, c'est peut-être, il y a peut-être un truc comme ça. Mais comme à côté, elle interviewe un certain nombre de gens, que ce soit chez Compto, que ce soit chez, chez Segment.com, chez... enfin bref, c'est vachement bien dans cet article, c'est qu'il y a des cas d'usage de plein d'entreprises.
C'est ça, c'est... là j'ai un article de business de leséchos.fr. C'est... alors je ne vais pas le dire son nom parce que j'ai peur de l'écorcher. Enfin, si, Anto Chong. Chuong, j'espère que j'ai pas trop écorché. La première employée de Compto crée la startup Lago. Donc en fait, c'est assez rapport.
Ok, d'accord. Ça marche. Merci pour la précision. Est-ce que vous avez une idée de transition ? Parce que là, je sèche complètement.
On peut faire sans, hein. Tu sais.
Est-ce qu'on ferait pas un tour d'horizon du coup de...
Oui. C'était plus évident. Tiens, t'aurais pas des nouvelles de Yubico par hasard ?
Ah, Yubico, donc l'entreprise qui fait les fameuses YubiKey, donc les clés Fido. Alors, fun fact, Fido, c'est une alliance de sécurité sur le web, et j'ai cherché partout sur leur site, même dans la FAQ, et j'ai été incapable de trouver ce que voulait dire Fido. Donc j'ai fini par trouver sur un dictionnaire en ligne, voilà, et donc c'est un acronyme qui veut dire Fast Identity Online. Fido. Globalement, voilà, c'est Yubico. Je pense qu'ils sortent un nouveau format de leur clé. Donc les YubiKey, donc les clés Fido et ce genre de choses, c'est des clés qui vous permettent d'avoir une authentification multiple facteur. Avec un système physique d'authentification à multiples facteurs pour pas forcément se baser sur les Google Authenticator ou autres outils et ce genre de choses. Et donc voilà, donc ils font un petit rappel de à quoi ça ressemble les différents protocoles, etc. L'évolution, donc il y avait Fido avec U2F. Il y a le nouveau format qui s'appelle WebAuthn qui consiste
Fido 2.
Fido 2, c'est ça.
Ouais.
WebAuthn qui consiste en deux choses, une implémentation dans le browser, donc avec une API spécifique pour les clients qui sont dans le browser, et des conseils d'implémentation, enfin les spécifications de la partie serveur de la chose, quoi.
Ok, d'accord. C'est un truc, j'ai jamais regardé de près comment fonctionnaient les Fido et les YubiKey en fait en particulier. En gros, c'est comment ça marche exactement, si quelqu'un peut me rappeler le concept, le principe, parce que je m'étais dit je vais m'en prendre une, mais en fait,
alors,
j'ai peur de l'implémentation en fait.
Globalement, de mémoire, tu mets une clé, ta clé GPG privée dessus.
D'accord.
Ta clé SSH privée. Et en fait, du coup, tu viens, quand tu te connectes, il vient la lire et s'assurer que, du coup, cette clé-là déverrouille un certain objet que tu avais chiffré avec ta clé publique, du coup.
Ouais, en fait, la clé va te générer un OTP. À partir
okay,
en fait, c'est un challenge OTP de la même façon que tu as ton Google Authenticator qui tourne, enfin voilà, que tu peux faire tourner sur ton portable. Et du coup, ton navigateur va aller chercher le challenge, la réponse au challenge directement sur ta clé. Et donc, en fait, maintenant,
okay,
les navigateurs implémentent un truc où quand tu branches ta clé, ou globalement, c'est une clé USB,
ça déclenche
le truc. Parfois, tu as un bouton appuyé sur ta clé USB. Il y en a certaines où tu as même un code. Tu sais, il y a un petit numpad physique avec des petits boutons
okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, où tu cliques sur ta
c'est
clé pour la débloquer et ça permet de, voilà, de faire ta deuxième authentification. Quoi.
Ok. Et pour que ce soit compatible, c'est compatible par défaut avec quoi ? C'est-à-dire tous les trucs qui sont en TOTP ou uniquement
alors,
uniquement
et en fait, il faut
spécifique.
En fait, non, faut implémenter, WebAuthn. Donc il faut implémenter la partie serveur de la même façon que tu implémentes du TOTP avec du enfin c'est le côté Google Authenticator ou
ouais je vois bien
ou ce genre de choses
d'ailleurs offloader sur d'autres apps
ouais exactement Donc tu as une implémentation cliente, une implémentation serveur à faire, sachant que eux ils te fournissent trois libs, une en C, une en Java et une en Python, pour pouvoir implémenter ce truc-là côté serveur, de la même façon que tu dois implémenter la danse haute ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ils refont un petit peu une histoire et puis ils en profitent pour annoncer tout ce qui est FIDO 2 et les clés qui vont avec. Et donc tous ces trucs-là. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser. On ne s'est pas encore mis à ces trucs-là chez Clever. C'est quelque chose que tu as utilisé, toi, Florentin, chez OVH ou
Non,
ou
j'en avais pas. En fait, c'est arrivé après que ça a commencé à arriver chez OVH avec les laptops Linux. Et ça doit être 6 mois, 1 an avant que moi je parte. Et pour le coup, j'avais un laptop et un Mac, du coup. Et à ce moment-là, c'était pas implémenté là-dessus. Ouais. Et le but, c'est de changer le parc des laptops de VH pour aller sur des laptops Linux à ce moment-là. Et du coup, de faire un rolling du parc, et à ce moment-là, t'avais ta clé. Et j'ai pas eu le temps de tester, justement. Mais après, je suis pas. En fait, le problème de la clé USB comme ça, c'est que j'ai trop peur de la perdre hyper facilement.
Ouais, moi aussi, tu vois, c'est ce que je me dis. Puis il y a un autre aspect, c'est si tu as un téléphone mobile qui n'a pas le bon type de port. Moi, par exemple, je suis sous iOS, ma clé YubiKey, il faut que je trouve un adaptateur. Enfin, ça ne marche pas.
C'est une très bonne question. Alors, souvent, les clés font aussi du NFC.
Donc, en fait, potentiellement. Le NFC sur iPhone, c'est pareil. combat, c'est pas hyper open.
Il n'y a pas de NFC sur Apple, sur iPhone ?
Si, mais c'est compliqué.
Ok, d'accord.
Et j'étais en train de regarder, justement, je posais la question, et il se trouve qu'ils font des clés USB avec port Lightning et USB-C de l'autre côté.
D'accord, ok, fun.
Donc, voilà, tout est possible. Non, en vrai, ils ont un certain nombre de versions de leur YubiKey avec différents trucs. Différents branchements, etc. Il y en a des toutes petites que tu peux avoir quasiment toujours branchées dans ton PC, ce qui perd un petit peu en intérêt. Mais voilà, la question c'est est-ce que tu peux mettre ton noyau Linux sur cette clé là aussi ?
Risqué.
Je sais pas trop.
J'ai été mauvaise langue sur le NFC. A priori, c'est pris en charge par YubiKey sur application mobile. Ça marche aussi en fait.
Non, en gros, c'est quand même devenu un peu un standard. Il n'y a que Yubico qui fait des trucs comme ça quasiment dans le monde. Mais du coup, tout le monde implémente ça. Surtout vu que Apple, Google et tout, là, ils ont annoncé, je ne sais plus quand, on aurait pu mettre un lien là-dessus, qu'ils voulaient arrêter les mots de passe.
Oui, c'est un projet qui est en cours, ça.
Je n'ai pas de lien à mettre, donc on ne va pas s'étendre trop dessus. Mais s'ils veulent faire ça, il y a un moment, il faut passer sur d'autres technos. T'as un petit avis là-dessus, Alexandre ?
Pas du tout, c'est vraiment pas un domaine que j'ai touché ni de près ni de loin, en fait.
Ouais, bah souvent c'est des questions, des trucs que tu vas faire dans le cadre d'une organisation, quoi.
Sûrement, et puis où il y a je pense que tes ressources humaines se déplacent, en fait.
En plus. Bah, c'est l'intérêt de ce genre de choses, en fait, c'est d'avoir... cette clé-là qui puisse permettre de t'authentifier de n'importe quel PC ou ce genre de choses.
L'usage que je verrais typiquement de ça dans la nature, c'est pour ouvrir vous savez les boîtes de raccordement de la fibre. Tout le monde, tous les prestataires devraient avoir sa propre clé, comme ça tu sais exactement qui est le dernier qui a ouvert le truc.
Par exemple.
Complètement,
tu vois, ça éviterait bien des problèmes.
Moi j'aimerais bien avoir une petite clé comme ça, mais en mode physique, comme une clé de porte. Ça serait très rigolo de rentrer ta clé de porte dans le port USB pour pouvoir faire ton truc. Ça serait un petit côté retour vers le passé. Retour vers le futur même, pardon.
En parlant de futur, est-ce que vous savez que maintenant, Carrefour est dans le futur ? Et à entrer dans la nouvelle technologie, dans la technologie du futur. Parce que donc, c'est le patron, le PDG, si je dis pas de bêtises, de Carrefour. Qui a fait un tweet où il explique qu'il a fait des entretiens d'embauche dans le métavers. Alors, on ne parle pas du métavers de Facebook, hein, donc le produit de Facebook, mais globalement, il a fait ses entretiens d'embauche dans un monde en 3D, donc face à la mer depuis Paris. incroyable. Voilà, sous les traits d'un avatar, et il avait une, c'est quoi, ils sont quoi, ils sont une cinquantaine, non? Non, une trentaine?
Ouais, la louche, ouais.
La louche, ouais. De gens, visiblement des candidats, d'après lui. Donc voilà, potentiellement sur un fork de Mozilla Hub ou ce genre de choses, enfin.
Alors, j'ai retrouvé, ouais. En fait, il y a un article de Numerama qui en parle. En fait, c'est une boîte qui s'appelle VR Academy qui se spécialise dans ce genre d'événements. Mmh. Et c'est pas de la réalité virtuelle, c'est. En fait, ils ont utilisé le site qui s'appelle Frame, qui est un site qui te permet de générer ce genre d'événement sur ton navigateur. Et même côté les candidats, enfin, tous ceux qui étaient connectés, en fait, ils étaient juste connectés à leur navigateur et ils avaient une vue un peu à la.
Bon, à la première personne, non, j'imagine
Peut-être à la première, ça je sais pas. Mais voilà, c'est tout. C'est vrai que ça fait du buzz parce que c'est Alexandre Bompard. Normalement, quand il parle, t'as tout le CAC 40 qui regarde, hein, et qui se permet un tweet un peu léger sur ce sujet. C'est-à-dire, nous aussi, on innove. Voilà. Et c'est loin du métaverse tel que Facebook nous le vendrait, idéalement. Si,
ça permet de dire que Carrefour innove et apprend. Voilà. Mais voilà, c'était le petit. Je sais pas si vous avez un avis, vous, là-dessus.
Tu sais que ça marche bien d'un point de vue marketing, puisqu'ils ont fait presque 2 millions de vues sur la vidéo qui est sous le tweet. C'est franchement pas mal. Bon, c'est juste que les graphismes font un peu penser à. Quand j'ai démarré pour la première. Hein. Ouais, même pire, en fait, la PlayStation 1, tu vois, vite fait.
Bah, après, c'est le navigateur. C'est dans le navigateur. Donc, ouais. Tu te dis, ok.
Il y a 10 ans dans le navigateur, on avait des trucs de fou. Bon, ok, c'était une réimplémentation du Unreal Engine, ouais, uniquement dans Firefox. Hey, c'était pas mal.
Effectivement. Et je pense qu'en plus, il y a un côté. Genre, je pense qu'il y aurait eu plus d'impact pour les 50. Les 50 Kiki qui sont venus passer leur entretien, d'avoir réellement la tête de Alexandre Bompard qui leur parle en visio. Tu vois, genre, ils sont en visio direct avec le patron de Carrefour, façon plutôt qu'avoir juste un avatar.
C'est incroyable.
Juste avoir un avatar sans les mains, quoi. Voilà.
Si ça se trouve, lui, il est juste venu faire le tour avec son avatar pour dire bonjour.
C'était pas lui
le RH, hein.
Peut-être. Mais, peut-être.
Putain, moi, ouais. Ça me fait flipper, ces trucs-là. À partir du moment où tu mets un casque de verre sur la tête des gens qui sont tous dans une même pièce, c'est
là, c'est alors, pas de la
même pièce ou pas.
Là, tu fais référence.
C'est pas de la VR. Mais
je crois que tu faisais référence à une conférence de presse qui est organisée par Orange ou un truc comme ça, où ils étaient tous dans la même pièce, mais ils ont fait une réunion dans le métaverse.
Ouais, voilà. Oui, ça m'a fait penser à ça, exactement. Et je trouve c'est cringe.
C'est particulier. Pour l'instant, les seuls gros clients, c'est les grosses boîtes qui ont, on va dire, des gens qui ont du temps à perdre et de l'argent à dépenser, en fait.
On n'est pas loin des bullshit jobs, hein, quand tu commences à travailler sur ce genre de choses. Je suis désolé, mais.
Je ne serais pas aussi catégorique. Mais...
j'ai beaucoup de mal.
Et du coup, ça m'a
si on avait personnel.
J'ai enfin vu, comment il s'appelle ce film, Ready Player One.
Dans le oui.
Et du il coup, est trop bien ce film.
L'histoire de tout le monde avec le casque de VR sur la tête, tous dans la même pièce, ça y fait penser.
Pour le coup.
Excellent film d'ailleurs, enfin en termes de référence, etc.
Moi je l'ai peut-être vu un peu tard, mais j'ai trouvé ça too much, tu vois. Ils ont mis un Godzilla parce que bon, faut faire plaisir aux gens qui aimaient Godzilla. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais comme je l'ai vu 10 ans après tout le monde.
C'est un Godzilla mécanique, c'est encore mieux.
Ouais, enfin, moi j'étais là.
Mais bon, trop de spoil pour les gens qui ne l'ont pas vu.
Non, il est dans le trailer. Il est dans le trailer, et puis le film il faut le voir parce qu'il est vraiment cool. Non, il a 4-5
ans. C'est un Spielberg.
C'est un Spielberg avec la musique d'Alan Silvestri. Ça fait un super moment. Et c'est cool.
Ouais, le choix des musiques utilisées aussi est très bon. Il y a Bombay ou un truc comme ça.
Ouais. Donc, et en parlant de musique,
on arrive à la fin de l'épisode.
On arrive à la fin de l'épisode. Donc là, pour le coup, on va faire un vrai lancer de dés. Je prends un dé que vous connaissez.
Un dé de 20. C'est un dé de 20.
On pourra t'en envoyer un parce que c'est le logo de Clever qu'on a imprimé en 3D et qui nous sert pour faire un outil de décision.
Oui, c'est hyper important.
Tu entres 1 et 2, tu mets tout sur cube, ce genre de choses, quoi.
C'est peut-être pas un truc que vous devriez dire publiquement sur un podcast, en fait.
Ah bah si.
Si
t'as un problème entre deux trucs, tu prends
fait,
le
c'est,
dé.
On a refait avec beaucoup d'intelligence artificielle la façon dont les VC mettent de l'argent dans des boîtes.
D'accord.
Ça, ils sont là. Non. Combien de millions?
Si c'est pour la recherche,
millions, c'est parti.
Si c'est pour la recherche, ça me va.
C'est ça. Donc voilà, donc entre 1 et 5, c'est moi qui mettrai ma musique. Entre 6 et 10, ça sera Florentin. Entre 11 et 15, ça sera Clément. Et entre 16 et 20, ça sera à nouveau Alexandre qui nous a préparé une autre musique.
Ouais.
Et oh, j'ai fait 3.
Allez.
Ah, c'est pas.
Oh, oui, c'est ça. Ça tombe Merci. Sur moi. C'est parfait. Je vais vous parler d'un groupe des années 80 qui a fait un petit comeback récemment, mais là, je vous ai mis une musique des années 80 qui s'appelle Crucified. Donc, le groupe, c'est Army of Lovers. C'est de la pop un peu sous acide. C'est complètement barré. En vrai, la musique est très très cool pour danser, pour mettre de l'ambiance. Et alors, la petite histoire, c'est qu'ils ont sorti Crucified et ils se sont fait excommunier dans la foulée. voilà, c'est un groupe très 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 LGBT et c'est assez. Leurs clips sont incroyables. Ils surjouent tout. C'est assez magique.
C'est génial.
Même les énormes plans sur Camilla, elle s'appelle la chanteuse, là, avec un énorme décolleté, enfin genre en corset, etc. Tu sens qu'ils sont dans la parodie de tout, etc. Enfin, ils vont dans le trop pour et du coup ça n'a plus aucun sens. Et je vous invite à tout écouter et notamment à écouter celui-là. Ça me ramène à l'époque où j'ai rencontré Quentin Adam. Quand on était au lycée, on se faisait des soirées, on écoutait ce genre de choses. Et c'est très très drôle. Ils se sont fâchés avec beaucoup de monde parce qu'ils ont tapé. Parce qu'un des membres du groupe qui s'appelle Jean-Pierre, le type il est franco-israélien, il vit en Suède où il a été notamment coiffeur pour la famille royale à une époque de Suède. Enfin, vraiment, il a un parcours assez incroyable. Depuis son nom de famille, Jean-Pierre, vous tapez Jean-Pierre Army of Lovers, le type est incroyable. Et ils ont fait un petit comeback où ils ont fait 2-3. Deux, trois participations dans des clips ou dans des chansons avec des gens plus ou moins connus, plus récents. Et voilà, vous allez voir, ça donne du peps.
C'est pas mal.
Il y a un petit côté où je sais pas pourquoi, mais je verrais bien Quentin dans le costume qu'il a tout début, un petit peu royal.
Je sais pas le nombre de fois où on a dansé là-dessus avec Quentin quand elle était chez ses parents.
Et c'est pour ceux qui ne savent pas, ça a commencé chez ses parents.
Il y a un petit côté Queen, I Want to Break Free, en fait, le clip qui est.
Ouais, il y a un petit côté, voilà, cette partie-là de Queen, dans ce côté-là, mais poussé vraiment à l'extrême. Ils ont une reprise de Let the Sunshine In, qui est assez incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la chanson à la fin de la comédie musicale Hair. Je vous invite à écouter. C'est vraiment un groupe qui mériterait d'être plus connu. Enfin, ils ont eu leurs petites heures de gloire dans les années 80, mais moi j'adore personnellement.
On gardera en tête l'image de toi et Quentin en train de danser sur ça.
Ce sera l'image de la fin de ce podcast.
Voilà,
c'est ça.
C'est parfait.
Sur ce, donc,
on vous invite à faire des photomontages dans les commentaires.
Le monteur, si tu nous entends, est-ce que tu pourrais débrouiller pour mettre ça à la fin?
Le pire, c'est qu'il serait capable parce que je pense qu'il a la banque d'images de Quentin. Moins de moi, mais je pense à la banque d'images de Quentin en toge pour ça et il serait capable de le faire. On lui en touchera un mot. Donc je rappelle que vous pouvez me trouver sur Twitter @JUDUU. Vous pouvez trouver Florentin sur @FlorentinDubois. Ça s'écrit comme ça se dit à peu près, pour tout toucher. Clément Nivol @CNivol sur Twitter. Et Alexandre Gourdel Alex sur Twitter. Et bien sur ce, je vous souhaite à tout le monde un bon vent. Aux gens présents ici, un bon week-end. Et puis peut-être à vous si vous nous écoutez un vendredi. Un bon week-end également, même si c'est un mardi, je vous souhaite quand même un bon week-end. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée, bon week-end, au revoir.